Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Plongeons dans cette catéchèse aujourd'hui, dans cette journée d'aujourd'hui avec foi, avec reconnaissance et avec disposition de cœur pour écouter ce que veut nous dire le Seigneur aujourd'hui. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, frères et sœurs, je commence cette catéchèse faisant un peu la suite des catéchèses précédentes sur les méditations du jeune homme riche. Et de Jésus qui emploie beaucoup vraiment cette expression « entrer dans le royaume ». Alors, est-ce que vous y êtes? Est-ce que nous y sommes dans le royaume? Ah, c'est très important. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez bien que j'aime bien les points de départ. Et que lorsqu'on rate un départ, c'est difficile après de rattraper son retard. Et pour ceux qui font des courses, eh bien, ils savent bien l'importance d'un bon départ. D'un bon départ et aussi de la question de l'origine. D'où partons-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Parce que je vais vous dire une chose très importante. J'espère être clair et me faire comprendre. Ce sont des clés de vie, des clés de vie spirituelle. Le point de départ de ma vie d'aujourd'hui, de ma journée d'aujourd'hui, est-ce que c'est un acte de foi? Est-ce que je pars de moi pour essayer de rejoindre un point difficile à atteindre, qu'on appelle la vie chrétienne, qu'on appelle Jésus, qu'on appelle l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit Saint? Ou bien est-ce que nous démarrons notre journée avec ce point de départ suivant, deux points. Le royaume, j'y suis. Je crois que je suis déjà dans le cœur de Dieu. C'est très important. Vous savez que dans une discussion sur le jeûne, à un moment donné, dans les évangiles, on demande à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Les disciples de Jean-Baptiste, ils le font. Et Jésus parle étonnamment d'épousailles. On ne voit pas trop le rapport au début entre la question pratico-pratique, faut-il jeûner ou pas quand on était disciple? S'il vous plaît, c'est dans quelle case? Hein, je coche quelle case pour être un bon disciple de Jésus? Jeûne, pas jeûne? Hein, nous, on est un peu comme ça, nous. C'est vendredi ou c'est mercredi, vendredi, ou matin, midi et soir, est-ce qu'on peut prendre un peu de sucre dans le café? Vous voyez, on est très un peu comme ça, nous. Bon. Et on attend que Jésus nous réponde à ce niveau-là, vous voyez. Le problème, c'est que souvent, Jésus ne répond pas au niveau à nos questions, au niveau de la question. Et c'est plutôt mieux, d'ailleurs. Parce qu'on lui pose une question de nourriture et de boisson, et il nous parle d'épousailles. Quel saut! Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Quel est le rapport, Jésus? Ben oui, parce que, justement, personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour la rajouter à un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, et il se répandra et les outres seront perdus. Mais du vin nouveau, il le faut mettre en des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau. On dit en effet, c'est le vieux qui est bon. Alors voilà, avec Jésus, le vin nouveau est arrivé. C'est d'ailleurs bientôt le Beaujolais, non? Je me rappelle. Des vieux souvenirs. En octobre. Beaujolais nouveau. Est-ce que nous comprenons que, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui avons aimé le Seigneur, mais c'est lui qui nous a aimés le premier? Et que, même lorsque nous dormons, le Seigneur se penche sur nous, il nous aime. Et vous qui êtes parents, vous savez bien que lorsque votre enfant dort, eh bien vous l'aimez. Vous n'attendez pas qu'il se réveille pour l'aimer. Vous n'attendez pas qu'il fasse plein de choses qui vous plaisent pour l'aimer. Vous l'aimez, point. Alors ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et en accueillant Jésus dans notre vie, en posant cet acte de foi essentiel, ça va déclencher, ça va ouvrir à la plénitude. Si nous posons cet acte de foi, qui est très simple au fond, c'est pour les petits, hein. La vie évangélique, c'est pour les petits, c'est pas pour les cérébraux. Ce n'est pas pour les sages et les savants, non. C'est pour les tout petits. On peut être tout petit et rempli de diplômes, cela dit, mais le cœur tout petit comprend qu'un acte de foi, c'est de dire, moi, aujourd'hui, je vis ma vie d'aujourd'hui dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Cet acte de foi permet de transcender tous les aspects immédiats. Tous les aspects immédiatement repérables. Ma fatigue, mon problème au pied, mon problème conjugal, mon problème avec les enfants, mon problème avec l'école, mon problème. Mon problème avec mon passé, mon problème avec mon futur qui m'inquiète. Tout ça, notre vie peut être ramassée. Notre vie et notre personne peut être ramassée dans cet acte de foi si important. Dans le fait que nous sommes aimés à la folie, dans le fait que le vin nouveau est là et que nous ne pouvons pas accueillir le vin nouveau avec des outres neuves, vieilles, pardon. Ça veut dire quoi, avoir des vieilles outres? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont quand même incompatibles entre la vie divine en nous, et puis lorsqu'on dit « Ok Jésus, ça marche, moi j'accueille ta vie divine, je vis avec toi, c'est bon. » Et puis il y a des choses qui sont incompatibles. Le péché, bien sûr. Et tous ses corollaires. Par exemple, dire le Seigneur me comble et le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et puis passerai-je les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent et me rassurent. Avoir foi en la bonté de Dieu qui me conduit aujourd'hui, comme hier, comme demain, eh bien c'est incompatible avec le fait d'avoir peur pour mon avenir. Soit je crois, soit je me dis je crois un peu, mais quand même pas tant que ça. On voit bien que le doute et la foi sont incompatibles, par exemple. Saint Thomas d'Aquin dira que le doute, c'est un péché contre la foi. Après, il y a des gens qui disent c'est important de douter. Oui, non, non, non. Je ne parle pas de la nuit de la foi, où le Seigneur nous fait traverser les épreuves en vue d'une grande fécondité pour les âmes, pour justement susciter la foi dans les âmes. Pour que les gens aient la foi, le Seigneur nous fait traverser plein d'épreuves, pour susciter justement chez les gens l'acte de foi. Mais en dehors des épreuves qui relèvent de l'épreuve spirituelle, un peu de nuit de la foi est une lumière qui nous permet d'avancer au milieu des ténèbres. La foi est cette lumière qui me permet de poser des pas en Jésus, en dehors de tout ressenti. Car le don de la foi nous est donné dans l'essence de notre âme. Et la foi ne nous est pas donnée, ni n'est pas déversée ni sur notre corps, ni dans notre psychisme. Non, c'est pas là que ça tombe, la foi. C'est dans notre cœur profond. Au baptême, lorsque le prêtre ou le diacre nous dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », nous sommes immergés dans la vie divine avec la grâce, le don de la grâce, avec les vertus théologales, les vertus infuses, avec la foi, qui est déposée comme une petite graine et qui devra pousser, germer, grandir. Comment ? Eh bien, en posant des actes de foi. Bien sûr, on se servira de tout le monde sensible dans lequel nous sommes immergés. La liturgie sera ultra sensible. On chante, on danse, on écoute, il y a de l'encens. Parce que la liturgie respecte notre nature humaine. Le Seigneur respecte notre nature humaine. Et en instituant les sacrements, le Seigneur déverse au plus profond de notre âme les choses essentielles dans une nature humaine sensible, qui seront même des éléments, des signes, comme on dit, efficaces de la grâce. On prendra de l'eau, on dira telle parole, on fera tel geste. Et à travers ces gestes, à travers ces paroles, c'est le Seigneur lui-même qui agira au plus profond du cœur. On voit bien l'importance de vivre pour nous dans la foi. Dans l'espérance et la charité aussi, mais là je m'attarde aujourd'hui avec vous sur l'importance d'avancer dans la foi. La foi est une lumière, et j'aurai l'occasion au cours de cette année de faire une petite série de catéchèses sur la foi. Cette foi si importante qu'on retrouve Jésus à un moment donné dans l'Évangile. Alors, un peu avant, dans l'Évangile selon saint Luc, on le retrouve chez Marc et Matthieu aussi, un passage très important. Quand Jésus, il a commencé sa vie publique, et puis à un moment donné, il se rend dans sa patrie, nous dit l'Écriture. Il enseignait les gens dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés, et disait « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier ? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles. À cause de leur manque de foi. Extraordinaire. On l'a vu grandir, ce Jésus. Il y a les frères, c'est-à-dire les frères, évidemment, ce ne sont pas les frères de sang, parce que Jésus est le Fils unique, non seulement de Dieu, mais de Marie. Joseph n'y est pour rien, il est conçu du Saint-Esprit. Mais à l'orientale comme à l'africaine, on appelle ça les frères et ses sœurs et ses frères, c'est-à-dire l'entourage familial, cousins, cousines. L'entourage familial, Jacques, Joseph, Simon et Jude, oui. Alors, Jésus a grandi à Nazareth avec eux. Il a joué, il a prié, il a marché avec eux, tout en étant pleinement le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé du Père éternel, le Fils éternel du Père. Et voilà que, après 30 ans de vie cachée, 30 ans de vie de rédempteur, où il n'a cessé de réparer, il n'a cessé de rédempter, il n'a cessé de s'offrir au Père pour la multitude, voilà qu'au cours de sa vie publique, il va manifester quand même sa présence, la présence de Dieu au milieu de nous, d'une manière publique, à travers les signes, des miracles, des œuvres, des paroles, pour susciter la foi. Et tous ceux et celles qui poseront un acte de foi, sans tout comprendre, mais un acte de foi sur la personne de Jésus. eh bien ils entreront dans la vie. L'acte de foi va ouvrir en eux l'entrée dans le royaume. Jésus a beaucoup parlé. Si vous êtes riche, vous ne pouvez pas rentrer. Pour entrer dans le royaume, il faut être pauvre et il faut redevenir comme un tout petit du cœur, qui justement accueille avec foi et humilité ce Jésus qui est bien plus qu'un homme qui a grandi à Nazareth. On voit bien la différence entre le regard humain, j'allais dire familial, clanique, sur la personne de Jésus, et ils étaient choqués à son sujet. Choqués parce que si c'est juste un homme, comment cela peut-il se faire qu'il fasse des miracles? On l'a vu jouer avec la famille. Ce n'est pas possible. Pendant tout ce temps-là, à part Marie, Joseph, qui n'ont cessé de poser les actes de foi sur la personne de Jésus, qui n'ont cessé d'adorer au sens strict la personne de Jésus qui est divine, Dieu Emmanuel, Dieu au milieu, avec nous. Ils ont touché, comme dira saint Jean plus tard, ils ont contemplé, ils ont entendu. Eh bien, c'était le Verbe de vie. Celui qui était tourné vers le Père et qui nous est manifesté. Marie l'a porté en elle, elle a accueilli le Verbe dans sa chair, par sa foi. C'est la foi de Marie qui lui a permis de concevoir le Fils de Dieu fait homme. On voit bien là que ce que la foi ouvre en nous, c'est l'entrée de la vie divine en nous. Dans l'ancien rituel de baptême, je reviens au baptême, sur le parvis, on demande aux parents, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que procure la foi? La vie éternelle. C'est ça que vous voulez pour votre enfant? Oui. Je veux que mon enfant entre dans la vie éternelle. Par quel biais? Par la foi donnée au baptême. Alors, parrain et marraine, vous êtes d'accord pour éduquer l'enfant dans la foi de l'Église? Oui, oui, oui. Pour que cette vie éternelle qui est déposée dans son petit cœur grandisse, pousse. Oui, oui, disent tous oui. Hein. Après, ce qu'ils font, c'est une autre question. Par contre, pour sabrer le champagne et puis pour faire la fête, là, ils sont bel et bien là. Bon, faire des cadeaux. Vive les parrains et vive les marraines. Hein. Bon. Pour faire grandir dans la foi, c'est plus rare. Plus compliqué. Alors on voit bien l'importance et la différence entre le regard humain, mondain, sur la personne de Jésus, qui fait rester au parvis, qui fait rester, j'allais dire, avec une appréciation très humaine. Eh ben, il est sympa, c'est super, il prêche bien, il est gentil. Ou il est bizarre, il fait des trucs qui sont pas très réglo quand même, hein, le Shabbat. Hein, il respecte pas la loi mosaïque. En tout raisonnement humain, il est peut-être prudent de se méfier de ce genre de personne. Hein. Mais vous n'accueillez pas ni un prophète en sa qualité de prophète, ni le Fils de Dieu en sa qualité de Fils de Dieu. Alors, vous n'aurez pas de récompense. La récompense, elle est liée à l'accueil que nous faisons dans la foi du Fils de Dieu dans notre vie aujourd'hui. Il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Alors, frères et sœurs, je vous pose la question. Dans la foi, si vous êtes outre neuve avec du vin nouveau, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que vous êtes fils, fille, bien-aimé du Père? Maintenant, là, maintenant, en ce moment. Est-ce que vous y croyez? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez poser un acte de foi et dire « je crois ». Je crois que je suis aimé par mon Père du ciel qui me bénit, qui m'aime maintenant. On voit bien que l'acte de foi va venir aussi trancher avec, encore une fois, le regard humain que nous pouvons poser sur nous-mêmes, le regard mondain. Ah, je ne mérite pas d'être aimé puisque j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. Ah, je ne suis pas complètement sûr de la miséricorde de Dieu, parce que. Oh, je ne sais pas bien, parce que moi je demande plein de trucs et puis j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Ça ne marche pas, les prières. J'ai beau faire des neuvaines à toutes sortes de saints différents, je les enchaîne, les neuvaines, ça ne marche pas. La situation est toujours la même, même ça empire, je ne comprends pas. Et puis, comment croire en Dieu quand on voit ce qui se passe, hein, dans le monde, dans l'Église? Il y a quand même des choses qui viennent nous bousculer. Que ce soit au niveau mondial, au niveau ecclésial, au niveau de nos pays, au niveau personnel, au niveau familial. Il y a tout ce qu'il faut pour nous faire trembler. Et puis il y en a un qui est trop content de nous faire passer à côté de l'acte de foi. C'est le démon, bien sûr, qui passe à travers tout ce qu'il peut trouver en chemin aussi, pour nous dire, bah, tu vois, mais t'as pas... Pourquoi tu crois? Hein? Tu crois que t'es fils bien-aimé, fille bien-aimée, t'as vu comme tu pêches? T'as vu comme tu tombes? Tu tombes en plus toujours dans les mêmes trucs, hein? Tu progresses pas? Et puis t'as vu l'Église? Donc franchement, catholique aujourd'hui, je sais pas si ça vaut le coup, hein? Et puis la souffrance, le mal, la maladie. Tout le temps, le démon essaie de se servir de plein de choses pour nous faire éviter l'acte de foi. Il faut être très conscient de ça, frères et sœurs. Et puis, il y a des gens, du coup, on va s'excuser, vous voyez. Ah ben non, du coup, si c'est comme ça, ça ne m'intéresse pas. Si c'est comme ça, je refuse de croire. Ou je suspends ma foi, j'attends de voir que ça s'améliore, et puis peut-être quand le monde ira mieux, je croirai. Quand l'Église ira mieux, je croirai. Etc., etc. Je vous le dis clairement, si nous restons en dehors de la foi, eh bien nous n'allons pas avancer dans notre vie spirituelle. Par contre, si nous nous servons de tout ce qu'on traverse pour dire, ben Seigneur, là, je me sers de ça, c'est une épreuve, ou c'est quelque chose de bien, ou c'est quelque chose que j'apprécie ou pas, peu importe. Je me sers de ça pour renouveler ma foi, pour te dire, je crois, Seigneur. Je crois, par exemple, que tu conduis l'Église. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Ah oui, mais là, on n'est pas tous saints. Non, on n'est pas tous saints, non. Ça, c'est sûr. Mais je crois en l'Église sainte. En raison de ta sainteté à toi, Jésus, bien sûr. En raison de la sainteté de l'Esprit-Saint, en raison de la sainteté de Marie. Et puis je vois bien que, heureusement, il y a des bienheureux, il y a des saints, il y a des gens qui sont canonisés, et puis il y a tous les canonisés qu'on ne connaît pas. Il y a de la sainteté, parfois cachée. Il y a de la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. Je crois, Seigneur, que tu es vivant. Apparemment, on est tous dans un état cadavérique, mais je crois, Seigneur. Je prophétise comme le prophète Ézéchiel, que ces ossements desséchés peuvent revivre. Je crois en la résurrection de la chair. Je crois au renouveau. Je crois en la Pentecôte. Je crois en la puissance de ton Saint-Esprit. Je crois que tu n'abandonnes pas ton peuple. Croire en la résurrection de la chair, c'est pas simplement croire qu'un jour, à la fin, on ressuscitera les bons comme les méchants. Mais c'est de croire en ta puissance de résurrection qui est capable de faire du cadavre que je suis un être vivant de ta vie aujourd'hui. Lazare, dehors! Je crois, Seigneur, que tu es capable de renouveler toutes choses. Tu es le vin nouveau. Et le psaume dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». C'est quoi ce chant nouveau? C'est le chant de celui qui est croyant, qui se tient debout en posture du ressuscité et qui dit « Je te chante un chant nouveau parce que j'étais mort et me voici vivant devant ta face, Père. » Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Non seulement tu es Père, mais si tu étais Père et pas Tout-Puissant, tu aurais été sympathique, gentil, un bon papa. Hein. Mais sur ta puissance, Oh, si tu n'étais que Tout-Puissant, mais pas Père, alors je craindrais ta puissance. Si tu n'étais pas Père, rempli de bonté, je craindrais des coups de bâton. Parce que je ne serais pas sûr de ta bonté paternelle. Mais tu es Père Tout-Puissant. Ah, je crois en ton Fils unique, oui. Je crois en Jésus, vrai Dieu, vrai homme, rédempteur. Sauveur qui a pris ma nature humaine, et non pas une nature angélique. C'est-à-dire qui s'est emparé de moi, de ma vie, de mes souffrances, de mes soucis, de mes problèmes, de mon péché, de mes misères. Le Seigneur a assumé notre vie humaine et notre personne humaine depuis le moment de notre conception et pour toujours. Tout a été assumé par le Verbe fait chair. J'y crois? Vous y croyez? C'est extraordinaire. Tant que nous ne posons pas ces actes de foi, on est dans une détresse extraordinaire, phénoménale. Je crois au Saint-Esprit, capable de faire toutes choses nouvelles. Oui, nous croyons en la puissance de régénération que le Seigneur seul peut faire. Nous ne croyons pas au renouveau apporté par les hommes. Parce que les êtres humains, depuis le début, on ne fait que transformer. Nous sommes des grands bricoleurs. Alors, on va voter pour le plus grand bricoleur à nos yeux. Mais on ne sort pas du bricolage, on reste dans le bricolage. Ça bricole. Ce sont des programmes de bricolage. Nous transformons, nous. On ne crée pas. Dieu seul est créateur. Ex nihilo, oui, de rien, c'est-à-dire qu'il est capable de faire de rien, c'est-à-dire de ce qui n'est pas, quelque chose. Vous, moi, l'univers, le monde visible et invisible. C'est en ce Dieu-là que nous croyons, c'est-à-dire que même dans des situations qui nous paraissent complètement fichues, le Seigneur ressuscité a manifesté sa victoire. La passion, c'était mal parti. Alors peut-être qu'il va s'en sortir. Ben non, il est mort. Bien mort. Dans un tombeau. Avec une grosse pierre devant. Et avec des scellés. Bon, apparemment, il ne bougera plus. Eh bien, il est vivant, ressuscité. Il a roulé la pierre. Ah oui, oui. Il est vainqueur de la mort. Il est vainqueur du péché, de la mort. Alors, Oui, je crois, je sais, je connais bien mon catéchisme, mon frère ressuscitera à la fin, oui. Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu connais bien ton catéchisme, c'est bien, Marthe. Mais est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Ah, ok. Parce que si tu crois que je suis la résurrection, que je suis ta résurrection, eh ben tu vas voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de mon amour dans ta vie de tous les jours. Tu vas voir ma puissance à l'œuvre. Tu vas voir que morte que tu es, parce que si tu n'as pas la foi, tu es morte. Eh ben je suis capable de te rendre vivante par la puissance de ma résurrection. Crois seulement qu'il t'advienne selon ta foi. Ouais, mais il sent déjà, hein, ça fait 4 jours. Hein. Scientifiquement parlant, on est mal, on est mal, on est mal. Il y a des études scientifiques, t'es au courant? Ça pullule, on n'a jamais vu, c'est impressionnant. Quand même. Et dans un monde, tous les jours, il y a 15 000 études scientifiques qui sortent. On ne savait pas qu'il y avait autant de scientifiques dans le monde. Mais du coup, on croit en la science maintenant. Ah, d'accord. C'est la nouvelle religion quand même. Bon. Ah, c'est scientifiquement prouvé, hein. Sauf qu'ils sont personne n'est d'accord avec personne. Tu parles. C'est une idole. Nous ne croyons pas en la science. La science n'est pas objet de foi. Dieu est objet de foi. Dieu seul. Sur l'autorité de sa parole, la véracité de sa parole. Parce que scientifiquement, si vous voulez analyser une hostie consacrée et le sang du Christ, eh ben vous trouverez les molécules du pain et du vin. Le scientifique n'ira pas plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il reste dans le domaine de sa connaissance, tout simplement. La foi a pour objet Dieu. Dieu qui parle, Dieu qui œuvre, Dieu qui aime, Dieu qui conduit, Dieu qui ressuscite, Dieu qui renouvelle, Dieu qui sanctifie. Alors, où es-tu? Où es-tu, Adam? Ben, j'ai eu peur, je me suis planqué. Ah, t'as manqué de foi. Oui, t'as mis le pied à côté, mais pourquoi tu n'as pas cru en ma miséricorde? Eh ben, j'ai pas cru, alors je me suis planqué, j'ai eu peur. Voilà. Frères et sœurs, c'est le vœu que je nous souhaite aujourd'hui à chacun, que vraiment nous offrions au Seigneur notre cœur de croyant. Qu'au milieu de toutes nos détresses, nous puissions dire je crois. Je crois en ton amour. Je crois en ta miséricorde. J'ai foi en toi, Jésus. J'ai foi en toi, Père. J'ai foi en toi, Esprit Saint. Et nous verrons de plus en plus qu'à chaque acte de foi que nous posons, nous allons voir et expérimenter chacun des espaces intérieurs qui vont s'ouvrir et des choses qui vont se passer extérieurement aussi, des choses concrètes. On va se dire, mais c'est drôle, il n'y avait pas une montagne là. J'aurais juré qu'il y avait une montagne avant là. Ben, elle est où? Eh ben, elle est dans la mer. Hein? Qu'est-ce qui a fait ça? Ma foi. Ah bon? Ben oui, la foi qui déplace les montagnes. La foi qui fait des choses étonnantes. Le Seigneur veut faire des merveilles. Il attend toujours de notre part la foi. Il a comme, comment dire ça? Il a comme greffé sa puissance à notre acte de foi. C'est merveilleux parce que le Seigneur respecte tellement notre liberté et puis il veut faire les choses avec nous. Il dit, moi je suis tout puissant, je peux faire tout. Aller déplacer une montagne, c'est pas un problème pour lui. Seulement, je veux que lier ma puissance, la puissance de mon amour, la puissance de ma miséricorde, la puissance de mon œuvre, de ce que je veux faire, de mon agir, eh bien, je veux lier cette puissance, cette toute-puissance, à ton acte de foi. Pour ma gloire, pour ta joie, pour la joie de notre lien d'amour. Parce que c'est une vraie joie de voir une montagne se déplacer. Hein. C'est une vraie joie de marcher sur l'eau. Qui marche sur l'eau? Ben, les croyants. Qui coule? Eh bien, les non-croyants. Alors, frères et sœurs, voilà, que le Seigneur nous revigore dans la nouveauté. Que le Seigneur nous renouvelle. Et que le Seigneur trouve en nous, lui qui est le vin nouveau, qu'il trouve en nous vraiment une outre neuve. Non pas parce que nous sommes des outres extraordinaires, c'est parce que nous sommes d'accord pour que le Seigneur fasse de nous une outre neuve, pour qu'il déverse son vin nouveau. Encore une fois, c'est le baptême. C'est la mort à nous-mêmes pour vivre de lui, par lui, avec lui et en lui. Le baptême, l'immersion, qui passe par l'étouffement. Bien sûr, quand on verse 2-3 gouttes sur la tête du bébé, on le voit un peu moins, ça. Mais le baptême par immersion est beaucoup plus expressif, si vous voulez. Quand on prend quelqu'un et qu'on le met dans la baignoire, une grosse baignoire, et qu'on lui dit « Maintenant, tu veux, je te baptise au nom du Père », plouf! Et qu'on attend un petit peu, vous voyez. 1, 2, 3. Qu'on le ressort. Au nom du Fils! Plouf! Et qu'on attend. Allez, 1, 2, 3. Pour qu'il étouffe un peu, quand même. Un petit peu. Hein. Et, allez, une troisième. Au nom du Saint-Esprit. Plouf! Voilà. Pour que tout le souffle du vieil homme expire. Qu'il n'y ait plus de souffle du vieil homme. Voilà. Pour que le souffle nouveau du Saint-Esprit prenne tout. Voilà. Vous savez, quand vous faites des exercices chez le kiné là, ou chez l'ostéopathe, il vous dit « Expirez jusqu'au bout !»« Inspirez !» Et voilà. Il faut que le vieil homme expire pour accueillir ce souffle nouveau. Voilà. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur fasse de nous vraiment des outres neuves pour que nous puissions avoir la joie d'expérimenter ce vin nouveau, de ce Saint-Esprit, de ce Jésus, de ce Père infiniment bon. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.